Paso doble.
Paso doble.
Lundi, livre.
Bonjour Yann Buruma.
Bonjour Monsieur Akem.
Alors vous êtes essayiste Yann Buruma et c'est avec vous qu'on va commencer cette semaine consacrée aux États-Unis, à l'Amérique, à une semaine des élections présidentielles. Vous êtes essayiste, vous enseignez à New York, on vous connaît à travers vos analyses publiées dans New York Review Books et surtout par vos ouvrages Death in Amsterdam, ce qui était le portrait du meurtrier Théo Van Gogh et qui a été d'ailleurs traduit chez Flammarion, et puis aussi Occidentalisme, The West in the Eyes of the Enemies, une brève histoire de la guerre contre l'Occident. Ça a été édité chez nous, chez Climat. Ce matin, j'ai envie d'avoir votre avis sur l'Amérique d'aujourd'hui. Que va-t-on retenir des années Obama?
That depends very much on what you thought of President Obama to begin with.
I think people who supported him. En réalité, tout dépend de ce que chacun pensait au départ du président Obama. Ceux qui ont voté pour lui le regrettent déjà. Il a été un président à ce point délicat et intelligent que ceux qui lui succéderont ne pourront jamais être à la hauteur.
Mais pour parler d'un exemple concret, en quoi Barack Obama a changé l'Amérique ?
Many different ways.
De plusieurs façons. Par exemple, l'assurance maladie, le système de santé nationale, qui existait à peine avant, il l'a étendu de façon très importante. Bien plus de gens sont assurés aujourd'hui. Il a changé la place des homosexuels dans l'armée. Grâce à des petites et des grandes avancées, il a fait des États-Unis un pays où l'on vit mieux. Il a aussi permis au pays de sortir de ce qui aurait pu être une dépression économique catastrophique. Il a réussi à sauver la situation. Et là encore, en faisant face à une opposition politique très forte, il ne faut pas oublier que lorsqu'il est arrivé au pouvoir, le représentant des Républicains au Parlement a dit que leur but essentiel était de faire en sorte qu'Obama ne soit pas réélu. C'était l'ambition officielle du Parti républicain.
Est-ce que Donald Trump est un candidat comme les autres, Yann Buruma?
Non, c'est évident. Jamais dans l'histoire, un pareil démagogue n'a été candidat officiel à la Maison-Blanche. On a déjà vu dans la vie politique américaine des populistes, des racistes comme George Wallace. Il y a eu des anticommunistes fanatiques comme John McCarthy dans les années 50. Mais aucun ne briguait la fonction de président des États-Unis. Selon moi, on est face à un dangereux démagogue qui ignore tout du monde et qui ignore d'ailleurs tout des États-Unis. Il est narcissique, c'est un tyran, aussi bien dans sa façon de penser que d'agir, et ce serait une catastrophe s'il devenait président des États-Unis.
Mais alors pourquoi il incarne aujourd'hui, pour beaucoup d'Américains, le fameux rêve de réussite, l'American Dream, quoi?
Le problème, c'est que ce rêve américain n'est plus vraiment accessible pour de nombreux Américains. Il n'y a pas si longtemps, la plupart des Américains, même très pauvres, pensaient qu'en travaillant dur et avec un peu de chance, on pouvait devenir millionnaire, avoir d'une certaine façon un morceau de ce rêve américain. Mais à cause du changement économique, qui est mondial et pas seulement américain, à cause de cette mondialisation, à cause de la disparition progressive de l'industrie, à cause d'une économie menée davantage par la finance que par la production, une grande partie de la classe laborieuse et industrielle a l'impression d'avoir été oubliée, qu'il n'y a plus rien pour elle, que sa situation s'est dégradée, et ces gens-là sont très en colère. Leur angoisse et leur sentiment de perte, ils le reprochent à ce qu'on appelle l'élite libérale, celle des grandes villes, de Californie ou de New York. Ils ne sont pas très différents de ceux qui en Europe supportent la droite populiste, et ils ne sont pas non plus très différents des partisans de Marine Le Pen ou de ceux qui ont voté pour le Brexit au Royaume-Uni. C'est la même colère, celle de ceux qui ont été laissés pour compte dans un monde qui change très vite.
Justement, en Europe, en France notamment, le thème de l'immigration est au centre des élections depuis quelques années déjà, pour ne pas dire depuis des décennies. Mais pour l'Amérique, ce n'est pas le cas. C'est nouveau que ça prenne des proportions aussi spectaculaires. Comment l'expliquez-vous, Yann Bulouma ?
Ce n'est pas complètement nouveau. Il y a déjà eu dans l'histoire des États-Unis des périodes de politique anti-immigration, de nativisme. Au XXe siècle, le nativisme a été très fort. Chaque fois qu'une partie bien protégée de la population des États-Unis s'est sentie menacée, sa première réaction a été d'en rendre responsables les immigrants et du coup l'élite qui acceptait ces immigrants, c'est-à-dire les industriels et les politiciens. Ça n'est donc pas un phénomène nouveau. En revanche, ce qui est nouveau, c'est que ce phénomène est désormais absolument mondial. Presque tous les pays du monde développés font face à la même chose aujourd'hui, des classes sociales structurées d'une façon nouvelle à cause de la mondialisation. Ces nouvelles classes sociales se divisent selon un axe majeur. D'un côté, ceux qui bénéficient ou pensent qu'ils pourront bénéficier de l'économie mondiale, de l'Internet, de l'absence de frontières, et de l'autre, ceux qui se sentent laissés pour compte, menacés, en danger. Le phénomène Trump est typiquement américain. Même si son succès a les mêmes causes que celui de Le Pen ou celui d'autres populistes européens, son style est résolument américain. Il représente le show business, il se vante d'être très riche, il est ostentatoire. Son style est on ne peut plus américain. Et puis aujourd'hui, ça n'a plus vraiment de sens de parler de la gauche et de la droite. Par exemple, comparé aux républicains classiques, Trump n'est pas un conservateur. Et c'est pourquoi de nombreux républicains ne l'aiment pas. Il met en avant une politique économique très populaire. Il est contre le libre-échange, alors que la plupart des républicains sont pour. Il est contre les accords commerciaux avec les autres pays. Il souhaite une politique économique protectionniste. Tout ce qui finalement constituait le programme des populistes de gauche. Mais en même temps, pour attirer ceux qui n'ont pas fait d'études, les travailleurs, il adopte leur réaction sociale face à l'islam, face aux problèmes raciaux. Pas forcément parce qu'il y croit, bien qu'il soit difficile de savoir en quoi il croit à part en lui. C'est un mélange de doctrine droitière et de ce qu'on peut appeler la gauche populiste.
Vous dites un peu plus que ça, Yann Bulouma. Vous dites que par rapport aux autres leaders du Parti républicain, Donald Trump peut même apparaître dans le volet social comme progressiste.
Oui, mais une fois encore, ce n'est pas nouveau dans l'histoire américaine. Je pense à ce fameux populiste de la première moitié du XXe siècle, Huey Long, gouverneur de Louisiane. Ou bien à William Jennings Bryan. Tous deux étaient des populistes qui séduisaient les mêmes profils que Trump, et souvent grâce à des programmes anticapitalistes. Les élites qu'ils combattaient avec cette politique populiste, c'étaient les banquiers, les industriels. Le populisme anti-élite, ce qui est d'ailleurs une expression redondante, n'est pas forcément de gauche ou de droite, et c'est pareil avec Trump.
Samuel Huntington, l'auteur du fameux Clash des civilisations, dans son dernier ouvrage, publié avant sa mort en 2004, Who Are We? The Challenge to America's National Identity, disait en substance que les immigrés latinos sont une menace à l'identité américaine. Et ça, c'est aussi le thème de Donald Trump, qui à chaque meeting a été accueilli par le slogan « Build the World », « Construis le mur ». C'est un engagement d'ailleurs très difficile à tenir parce que irréalisable. Est-ce que c'est un cri de désespoir, pour ne pas dire de haine, ou un programme politique que Donald Trump peut mettre en œuvre ?
Well, it's one of the several things Samuel Huntington has said.
Samuel Huntington a dit, selon moi, des choses qui sont fausses, et celle-ci en fait partie. Car cela ne menace pas l'identité américaine, car après tout, qu'est-ce que l'identité américaine ? C'est une sorte de consensus autour de ce que sont les institutions politiques, autour d'une façon de vivre. Or, dès la deuxième ou troisième génération qui suit l'émigration, que celle-ci soit d'origine latino, africaine, moyenne-orientale ou asiatique, on voit que chacun s'oriente vers ce consensus. Ces générations deviennent américaines, et ce, quelle que soit leur origine. Il a donc tort là-dessus. Mais cela dit, ceci est perçu, c'est vrai, comme une menace par certains, qui pensaient que l'Amérique était leur privilège.
Their idea of America gave them a certain sense of privilege. You could be poor.
Ils pouvaient être pauvres et non éduqués. Le fait d'être blanc et anglo-saxon les rassurait. Ce pays était le leur. Or, de plus en plus de non-blancs, de non-occidentaux, sont aujourd'hui américains et aux commandes du pays. Et celui qui en est évidemment le symbole, c'est le président Obama. Et le fait qu'il soit à moitié kényan, c'est-à-dire à moitié africain, et non pas afro-américain, ce qui est très important, et le fait qu'il soit très éduqué, représente une double menace aux yeux des blancs, et pas seulement les moins privilégiés. Car il représente l'élite de la côte Est. Il a été à Harvard, à Columbia, ce qui veut dire qu'il est absolument éduqué. Et il est aussi métisse, et cela montre aux blancs, et pas seulement aux moins privilégiés, que des non-blancs peuvent réussir bien mieux qu'eux.
Non-white people could become much more successful than they are. And I think one of the reasons.
Et c'est une des raisons de la véritable haine. Le mot n'est pas trop fort, qui existe contre Obama dans certains milieux américains.
Certain circles in America is because of that.
Et un coup de rétroviseur. On va écouter maintenant Donald Trump dans ses discours et la phrase qui va marquer sa campagne pour ses élections américaines.
In the good old days, this doesn't happen because they used to treat them very, very rough. And when they protested once, you know, they would not do it again so easily.
Ian Boluma, quand Donald Trump emploie l'expression in the good old days, quand il fait allusion au bon vieux temps, est-ce qu'il renvoie vraiment au temps où l'Amérique lynchait les Noirs en toute impunité ou est-ce qu'il joue avec l'ambiguïté de ce que peut vouloir dire cette expression?
Rien n'est jamais clair avec lui, c'est toujours volontairement ambigu. Il est fort possible que cela ne soit pas clair pour lui non plus. Mon sentiment est qu'il essaie de séduire sa base électorale, qui est constituée de personnes blanches, généralement peu éduquées, des travailleurs du Midwest, ceux qui, dans les années 50, jusque dans les années 70, avaient une activité prospère, des enfants plus éduqués, des gens fiers de leur carrière.
They became more and more prosperous. Their children got better educated. They were proud of their jobs in industry and so on. And this has come to an end.
Et tout cela est fini aujourd'hui. Ils ne sont plus aussi aisés. Leurs enfants connaissent parfois une situation moins favorable. Ils ont peur. Le système économique qui a soutenu cette classe n'existe presque plus aujourd'hui, et ils ont peur. Et ce que Trump leur dit, c'est qu'il va faire revivre ce bon vieux temps, quand tout allait mieux. Ce que, bien sûr, il ne peut pas faire. Il ne peut pas changer l'économie mondiale. Personne ne le peut vraiment. Et cela dit, les démocrates sont bien plus à même de minimiser ce que subissent les anciennes classes laborieuses aujourd'hui. Mais cela n'empêche pas Trump de faire ses promesses.
Mais dans des grandes villes comme New York ou San Francisco, j'ai l'impression que les gens, parce qu'ils sont dans des États acquis aux démocrates, ne perçoivent pas le danger. Alors que vous, vous dites qu'il y a un danger à ce que la présidence américaine aille à Donald Trump. Mais est-ce que vous pensez que le politique est toujours prédominant dans la vie des gens qui habitent l'Occident? Est-ce que vous pensez que la décision politique peut avoir une conséquence sur la vie des gens, Ian Buluma?
Oui, je le pense. Le président américain est à la fois un chef politique et une sorte de monarque. Ce dernier aspect de la fonction serait probablement mené de façon ridicule, exagérée, mais cela n'aurait pas de graves conséquences. En revanche, l'aspect politique serait dangereux car il a un pouvoir considérable. Et dans la mesure où le président Obama devait trouver un moyen d'agir en dépit de l'opposition du Parlement et du Sénat, il a, à l'aide de décrets présidentiels, fait en sorte d'édicter de nouvelles règles pour contourner cette opposition. Et aujourd'hui, grâce à cela, le nouveau président aura encore plus de pouvoir. Un des premiers pouvoirs du président est de nommer les juges à la Cour suprême. Cette Cour a une influence immense sur la vie américaine. Si cela devait être Trump, il pourrait nommer un ou deux juges très conservateurs, ce qui veut dire que les deux prochaines générations pourraient en pâtir. Il pourrait aussi probablement casser le système de santé national qu'on appelle l'Obamacare, ce qui serait une catastrophe, surtout pour les pauvres. Les relations raciales empireraient à force de jouer avec ce sentiment de suprématie des Blancs. Des luttes violentes entre groupes raciaux jusque-là assoupis pourraient s'envenimer. Et économiquement, le protectionnisme économique qu'il souhaite aurait des conséquences terribles sur la vie quotidienne des Américains. Et je ne parle là que de politique interne. Les dégâts seraient encore plus importants en politique extérieure.
Et on termine par une chanson d'ailleurs très emblématique, une drôle d'histoire, une histoire américaine. C'est un groupe de variété, un duo de variété, Pilot 21. Donc un drôle de nom avec deux chanteurs qui reprennent des mélodies faciles à retenir, mais vraiment ciblées adolescentes de moins de 14 ans. Pilot 21 a chanté il y a quelques années une chanson qui avait pour titre In the Good Old Days, au bon vieux temps. Mais alors vraiment, la chanson raconte l'histoire d'un jeune homme qui regrette l'époque où il n'avait pas affronté la vie, où sa mère s'occupait de tout. Il regrettait donc ce bon vieux temps. Mais bien entendu, cette chanson est ressortie à cause de Donald Trump qui a employé l'expression « in the good old days ». Et donc voilà pourquoi cette chanson est reprise par les hipsters, ou plutôt par les post-hipsters. Et bien sûr, elle est reprise au second degré.
Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder.
Cette interview d'Ian Buruma est à retrouver sur franceculture.fr. Interview traduite par Ariane Zimra. Pas au Double, le grand entretien culture des petits matins, par Toufi Kakem, réalisé par Thomas Duterre. À bientôt, à demain.